Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Alors que migrants et réfugiés sont au cœur de l'actualité, Franck Ferrand nous propose de revenir aujourd'hui sur un cas emblématique, celui des boat people, c'était à la fin des années 70. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je suis étonné, pour tout vous dire, que le cas historique des boat people n'ait pas été davantage évoqué à propos des événements que nous sommes en train de vivre. Nous allons, comme souvent, tâcher de combler cette lacune, et pour nous y aider, j'ai convié un des acteurs historiques de cette affaire, le fer de lance de l'opération Un bateau pour le Vietnam, Bernard Kouchner.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question de Cyril sur l'origine du système décimal.
Avec plaisir. Pour le moment, nous voguons vers l'Extrême-Orient, vers le Vietnam, à la recherche de migrants d'un autre temps.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
La photo s'est gravée dans les mémoires. On y voit Jean-Paul Sartre serrer la main de Raymond Aron sous l'œil d'un troisième intellectuel, André Glucksmann. Évidemment, voir Sartre et Aron ensemble à l'époque, c'était assez étonnant. Ça bousculait Jean Daniel et ses épigones qui préféraient, vous vous rappelez la formule, avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. Nous sommes en juin 79 et ces deux intellectuels tellement différents font partie d'un comité de personnalités françaises. Ce comité a une exigence: recueillir, soigner, secourir les boat people, ces milliers de Vietnamiens et de Cambodgiens qui fuient le totalitarisme de Hanoï et qui s'entassent sur des bateaux de fortune en espérant rejoindre une terre d'accueil. Sartre et Aron viennent ensemble de rencontrer le président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, pour plaider la cause de ces naufragés de la guerre du Vietnam. Alors qui sont-ils, ces réfugiés de l'époque ? Ce sont les laissés pour compte de la chute de Saïgon. Vous savez, nous avons eu souvent l'occasion depuis tant d'années de parler de la guerre d'Indochine, puis de la guerre du Vietnam. Et en 75, la guerre du Vietnam s'arrête. Ce Vietnam, il était, à l'époque dont on parle, donc il était depuis 20 ans, depuis la signature des accords de Genève en 54, coupé en deux entre un Vietnam du Nord et un Vietnam du Sud. Il y a eu des élections nationales en 56 qui devaient permettre la réunification du pays, mais le premier ministre de l'époque, Diem Nguyen Dinh Diem, était opposé à cet accord et il a proclamé au Sud une république du Vietnam. Ça a été le début de cette guerre entre un Nord communiste et un Sud soutenu par les Américains, tellement soutenu que les États-Unis, bien entendu, on est à l'époque de l'endiguement, vous savez, on essaie d'éviter l'extension des régimes communistes à travers la planète. Les États-Unis ont décidé d'intervenir militairement au début des années 60. C'est cette guerre interminable où ils vont s'enliser pendant plusieurs années. Et puis, en 1973, sont signés les accords de Paris. Un cessez-le-feu intervient entre les États-Unis et le Nord-Vietnam et l'accord prévoit le retrait des forces américaines dans un délai de 60 jours. Nous parlions l'autre jour d'Henry Kissinger et de sa politique. On est là au cœur de la politique de Kissinger et de l'administration Nixon. En échange de ce retrait américain, Hanoï, donc le Vietnam Nord, hein, les communistes, s'engagent à libérer tous les prisonniers, mais malgré le départ des GI, le conflit n'est pas terminé en vérité entre le nord et le sud du pays. Alors, en mars 75, l'armée populaire vietnamienne continue sa progression vers le Vietnam Sud, vers Saïgon, ancienne capitale de la Cochinchine, hein, qui est la grande ville du sud du pays, du sud du Vietnam. Et on peut dire que les grandes villes sud-vietnamiennes sont en train de tomber l'une après l'autre à ce moment-là. Et donc la route de Saïgon est ouverte. Le 29 avril 75, l'assaut est donné à 6h du matin, après une journée de bombardement, il y a toujours cette préparation d'artillerie. Les troupes sud-vietnamiennes sont en infériorité numérique. Les derniers personnels américains sont là encore, ils sont évacués le plus rapidement possible. Et dans les premières heures du 30 avril, la 324e division nord-vietnamienne entre dans Saïgon. C'est d'une brutalité spectaculaire ce qui est en train de se passer, bien entendu. L'armée sud-vietnamienne se rend. Pendant ce temps, les derniers hélicoptères décollent du toit de l'ambassade des États-Unis. On a vu mille fois ces films et ces photos. Près de 200 000 personnes s'enfuient avec les Américains. Mais il y a énormément, des milliers de candidats à l'exil qui sont là encore, qui se pressent. À 10h24, le président du Sud-Vietnam annonce la capitulation de son pays. C'est le début de l'instauration de la fameuse démocratie populaire vietnamienne. C'est le prélude à la réunification du Vietnam, bien entendu, qui aura lieu un an plus tard. Mais le régime qui se met en place, malgré tous ces mots de libération, de paix, etc., qu'on entend et que vous allez entendre dans la voix même des témoins de l'époque, le régime est une dictature. Tous les opposants au nouveau régime sont envoyés dans des camps de rééducation politique et tout ça vient aggraver une crise en plus économique, une crise de nutrition, disons-le, due à la sécheresse, aux inondations, due essentiellement à tous les désordres que la guerre a pu faire subir à ce pays. Conséquence, des dizaines et des dizaines de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants qui fuient le Vietnam Sud, qui partent sur les routes. Ce sont en majorité des petits commerçants, beaucoup de petits commerçants, des petits fonctionnaires, des employés, des artisans. Il y a aussi des jeunes qui fuient l'enrôlement dans le corps d'occupation guerroyante au Cambodge. Ils refusent de vivre dans un pays qui est totalement, qui leur a été présenté pendant tant d'années comme l'enfer absolu, un régime communiste. Ils fuient la misère aussi. Certains n'arrivent pas à quitter le Vietnam et pour cause, parce que pour sortir du Vietnam, il faut payer des sommes élevées. Il faut avoir des contacts fiables. Et vous voyez qu'on parle déjà de passeurs, etc. Une corruption incroyables se mettent en place. D'autre part, ceux qui veulent partir risquent d'être arrêtés. Des séjours de 3 à 10 ans d'internement en camp de rééducation sont à la clé. Ça ne rigole pas avec le nouveau régime. La voie de terre à travers le Cambodge, le Laos est complètement bouchée, fermée. Les candidats à l'exil à ce moment-là vont se tourner vers le golfe de Siam, vers les côtes de Thaïlande et de Malaisie, bref, vers la mer. Et c'est ainsi qu'on va voir bientôt partir tous ces réfugiés sur des embarcations de fortune. Ce sont eux, ce sont ces gens-là, ce sont ces réfugiés de la mer en quelque sorte qu'on va appeler les boat people.
Un extrait de la bande originale du film La Déchirure, film de 1987, musique signée Mike Oldfield. Aujourd'hui, Franck, nous revenons sur l'histoire des boat people, ces bateaux sur lesquels les Vietnamiens fuyaient leur pays.
Alors, on va venir aux boat people là dans un instant, mais revenons si vous voulez, puisque nous avons ces documents dans les archives d'Europe 1 sur la chute de Saïgon en 1975. Il se trouve qu'à l'époque, le correspondant d'Europe 1 au Vietnam est François Ponchelet. Et alors que les Américains viennent de quitter Saïgon, lui va circuler dans la cité qui est livrée à elle-même en quelque sorte. Il va prendre un taxi et à bord de ce taxi, il va d'un point stratégique à un autre. Voici un, je dis bien un, des nombreux témoignages qu'il a pu recueillir à l'époque sur son Agra. Il a vécu, on peut dire, aux premières loges ces heures fatidiques.
Mercredi matin, c'est fini. C'est la reddition pure et simple, la prise du palais. Et dans les rues, la diffusion des premiers communiqués du comité de gestion militaire que dirige le général Tran Van Tra.
Le comité administratif militaire de la ville de Saigon et de Yaden, dans son communiqué numéro 1, demande au peuple de protéger le gouvernement provisoire révolutionnaire, rétablir l'ordre et la sécurité de la ville qui vient d'être libérée. La vie et les biens du peuple doivent être protégés. À partir de maintenant, ceux qui brûlent, qui tirent, qui empoisonnent, qui tuent, qui volent, qui violent, qui portent atteinte à la vie et au bien du peuple seront sévèrement punis.
Il faut remettre de l'ordre dans cette ville pourrie, corrompue, dans ce pays encore imprégné de la présence américaine. On commence donc symboliquement par détruire le monument aux morts des GIs devant l'Assemblée nationale.
Eh bien, François Ponchelet, qu'on entendait sur l'antenne d'Europe 1 à l'époque, est avec nous en ligne. Bonjour François Ponchelet.
Oui, bonjour Franck.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous étiez donc à la toute fin du mois d'avril 1975 à Saïgon avec votre Nagra. Vous avez fait là un reportage dans des conditions un peu particulières.
Oui, c'était un peu particulier. Disons que je me suis trouvé au bon endroit, au bon moment, c'est-à-dire quand les chars nord-vietnamiens ont envahi le palais présidentiel à Saigon, et ensuite quand le général Nguyen, qui était donc le dernier président de la République du Sud-Vietnam, je dirais pas qu'il a capitulé, mais il a rendu les armes.
Il a fait sa reddition, disons, oui, voilà.
Il a reconnu la victoire des vainqueurs nord-vietnamiens.
Donc vous allez au palais présidentiel et vous le rencontrez, ce général Minh ?
Absolument. On savait que la chute de Saigon était imminente. Donc ce matin-là, moi, avec mon agrat et mes petites jambes, j'ai fait le tour de tous les endroits stratégiques de Saigon, et en particulier le palais présidentiel, où je me suis retrouvé quelques minutes plus tard, en haut de ce grand escalier monumental, en présence du général Minh, qui attendait les Nord-Vietnamiens pour leur remettre le pouvoir et reconnaître la défaite du Sud face au Nord. Voilà, en gros.
Et quelques moments plus tard, combien ? Une heure plus tard, vous voyez les chars arriver au palais présidentiel ?
Pas une heure plus tard, hein, très vite. Hein, ce que je vous expliquais, c'est que j'avais pris un taxi à la journée pour faire le tour de tous les points stratégiques possibles. Et aux environs de midi, le taxi m'a déposé devant le palais présidentiel. Je lui ai dit, bah, écoute, il ne se passe rien, on continue notre tournée. Et puis il me dit, non, ne bouge pas, reste là, tu vas voir. Et puis grâce à ce chauffeur de taxi qui était très malin, je suis resté devant les grilles du palais. Et c'est là que j'ai vu arriver les chars qui venaient prendre le pouvoir, les chars nord-vietnamiens.
Oui, donc, les chars communistes, là, oui.
Les chars communistes, absolument. Et donc, qui ont investi le palais présidentiel. Ils ont défoncé les grilles du palais pour rentrer. Et là, il n'y a eu strictement aucune résistance. Tous les militaires sud-vietnamiens qui étaient disposés en sécurité autour du palais se sont, disons, envolés subitement. Ils ont laissé tomber leurs uniformes et ils sont partis en caleçon, tout simplement pour ne pas se faire identifier. Et donc, c'est à ce moment-là que les chars sont arrivés et que je me suis retrouvé en présence du général Minh, qui m'a confirmé que oui, c'était la reddition et qu'il ne résisterait pas. De toute façon, c'était fini.
Alors, comment les Sud-Vietnamiens, comment les gens de Saigon réagissent-ils à cette arrivée des chars du Nord ?
Tous les Sud-Vietnamiens étaient persuadés que le régime communiste allait interdire tous les droits, qu'il allait y avoir des camps d'internement, etc., pour les Sud-Vietnamiens qui essayaient de faire de la résistance. Et donc, c'est comme ça que sont nés les Boat People.
Exactement.
Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que Bernard Kouchner a frété l'île de Lumière.
Mm-hmm. Le bateau pour le Vietnam.
Le bateau pour le Vietnam.
Et on va y venir tout à l'heure, oui.
Et donc, ce bateau a recueilli tous les Boat People qui étaient partis sur des embarcations improbables en mer de Chine. Et donc, l'île de Lumière a fait le ménage, a ramassé tous ceux qui pouvaient être sauvés. C'est comme ça que ça s'est terminé pour les Sud-Vietnamiens qui avaient choisi de fuir le régime communiste après la victoire des Nord-Vietnamiens.
Justement, nous allons entendre maintenant ce que vous disiez il y a 40 ans. Vous étiez en Malaisie et vous voyez arriver ces Boat People. Merci beaucoup, François Ponchelet.
Je vous en prie.
Depuis 4 ans, depuis que Phnom Penh et Saigon sont tombés comme des fruits trop mûrs aux mains des Khmers rouges ou du Viet Cong au mois d'avril 1975, 350 à 400 000 réfugiés cambodgiens, vietnamiens puis laotiens ont fui les régimes communistes installés dans leur pays après le retrait des Américains de la péninsule indochinoise. 160 000 de ces réfugiés ont déjà été accueillis aux États-Unis, 77 000 en France, 51 000 en Australie, 18 000. Mais le flot, la marée jaune, ne cesse de s'épancher dans la mer de Chine vers la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, Hong Kong, au rythme de 50 000 réfugiés par mois, 50 000 boat people comme on les appelle. Aujourd'hui, ils sont 173 000 à attendre dans ces pays dits de transit ou de premier accueil, qu'on les reçoive définitivement aux États-Unis, en France, ailleurs, partout où il y a de la place. Mais nulle part, en période de crise économique, de chômage, de pénurie de pétrole, nulle part la solidarité internationale ne se manifeste avec grand empressement. Il a fallu que la Malaisie menace, il y a 10 jours, de rejeter à la mer les ordures que lui envoie le Vietnam, la formule est du vice-premier ministre malaisien, et qu'elle menace aussi de tirer sur les nouveaux arrivants pour secouer l'indifférence et la torpeur des Occidentaux.
François Ponchelet au micro d'Europe 1. À l'époque, c'était donc en 1979. Et là, on parle de tous ces réfugiés qui arrivent sur les côtes malaises. On y revient dans un instant.
partir de la chute de Saïgon sont nés les Boat People. On en parle cet après-midi sur Europe 1 jusqu'à 15h avec Franck Ferrand. Vous pouvez bien sûr réagir, poser vos questions, témoigner sur la page Facebook de Cœur de l'Histoire. Vous pouvez également réagir sur Twitter avec le hashtag ACDH. A tout de suite.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
À l'effondrement du régime du Sud-Vietnam, de nombreux réfugiés quittent le pays pour fuir le régime communiste. On les appellera ensuite sur ces embarcations de fortune des Boat People et on en parle cet après-midi avec vous, Franck Ferrand.
Oui, et en 1978, ça fait déjà 3 ans hein, que les communistes sont en place. Ils ont, l'unification du pays a été faite depuis 2 ans et demi. La situation ne s'arrange pas. La gestion des zones d'économie nouvelles qui sont censées contrer le chômage, relancer l'agriculture, etc., en transférant des populations des régions surpeuplées vers les campagnes. Toute cette politique volontariste est un échec. Le pays est en conflit idéologique avec la Chine, il ne faut pas l'oublier. Il est en perpétuelle alerte sur ses frontières nord. Le Vietnam songe désormais à envahir la République du Kampuchea. La population vietnamienne d'origine chinoise, les Hoa, qui détiennent le seul commerce privé du pays, toute cette population est en difficulté. Le commerce privé a été aboli, les biens sont en partie confisqués. Certains sont même jugés illégaux. On voit les gens quitter le pays en masse, fuir sur des embarcations de fortune, souvent depuis la baie d'Along jusqu'à Hong Kong, mais aussi en achetant à prix d'or un visa d'émigration lors d'une procédure semi-légale mise en place par Hanoï pour favoriser les départs de cette communauté. La fin du commerce privé entraîne de nombreux problèmes. Les produits alimentaires, les biens d'usage, enfin tout vient à manquer. On peut dire que maintenant toutes les couches de la population sont prêtes à fuir le Vietnam. On voit des Vietnamiens s'entasser donc sur des bateaux, prendre tous les risques, ces embarcations qui sont constamment prêtes à chavirer. Il faut imaginer les quantités de personnes à bord. Certains sont d'ailleurs jetés à la mer pour augmenter les chances de survie du groupe. Ces gens risquent d'être surpris, coulés par les vedettes de la police frontière. Pendant des jours, des nuits, ils ne mangent pas. Ils boivent le moins possible. Et puis il y a les pirates de la mer, qu'il ne faut pas oublier, qui sont là pour faire leur moisson au passage. Entre 30 et 40% des partants ne survivent pas à ces conditions absolument épouvantables. Et une fois la traversée effectuée, il ne faut pas croire que ce soit le bonheur, loin de là. Tout se passe obligatoirement par des camps dans les pays de premier accueil, en Thaïlande, en Indonésie, aux Philippines, à Hong Kong et donc en Malaisie, nous l'avons entendu tout à l'heure au micro de François Ponchelet. Ces camps qui sont complètement surpeuplés, ils ont été prévus beaucoup trop petits. Ces camps souffrent de malnutrition, de maladies, des mesures répressives des pays d'accueil. C'est dans ces camps, bien sûr, que les pays occidentaux viennent sélectionner les candidats qu'ils vont admettre sur leur territoire. Et au cours de l'année 78, les pays de premier accueil sont submergés, on peut le dire, par cette arrivée massive de réfugiés. Voilà des situations que nous connaissons depuis quelques semaines, bien entendu, et dont on entend tellement parler. Des situations qui ont été vécues par ces pays de premier accueil à l'époque, avec une énorme différence, c'est qu'ils étaient situés à l'autre bout du monde, alors qu'aujourd'hui, bien entendu, ce sont des pays qui sont là, à nos portes. La Malaisie admet à elle seule plus de 60 000 personnes en provenance du Vietnam. En novembre 78, le Hai Hong, qui est un vieux cargo panaméen rouillé avec à son bord 2500 personnes, dont 1260 enfants, se voient refuser l'accès aux côtes malaises. Et là, c'est le déclic. Alors qu'en France, les images font la une des journaux de 20h, c'est déjà les 20h de TF1 et d'Antenne 2, hein, c'est des toutes nouvelles chaînes qui viennent d'être créées, les personnalités décident de s'engager pour éveiller les consciences, pour trouver des solutions. C'est à ce moment-là donc qu'on va voir un certain nombre de personnalités s'engager. Je vous ai parlé d'André Glucksmann tout à l'heure, entraînant Jean-Paul Sartre et Raymond Aron. Il y avait aussi des gens comme Bernard-Henri Lévy, Jean d'Ormesson, Yves Montand, Simone Signoret, Brigitte Bardot, l'écrivain allemand Heinrich Böll. Pour l'envoi du bateau en mer de Chine, afin d'aider les Boat People, un comité se tourne vers une organisation non gouvernementale, Médecins Sans Frontières, et vers Bernard Kouchner. Ce bateau, cette opération, ça va être un bateau pour le Vietnam. Le bateau, c'est un caboteur. Il s'appelle l'Île de Lumière. Il est affrété en Nouvelle-Calédonie grâce aux dons récoltés à la suite de cet appel. Alors, au départ, le bateau doit secourir les Vietnamiens en mer de Chine, mais les gouvernements de la région sont méfiants, notamment la Malaisie. L'idée d'un bateau hôpital va alors faire son chemin. À Singapour, ce caboteur est donc transformé. On monte à bord une centaine de lits, un bloc opératoire, des salles de consultation et de radiologie, un équipement qui arrive tout droit de France par avion, en même temps que tout un groupe de 5 médecins, une infirmière. C'est une opération de fortune que vous avez montée, Bernard Kouchner. Bonjour d'abord, merci d'être avec nous, Bernard Kouchner. On a l'impression d'une sorte de mobilisation générale à cette époque. Est-ce que c'était un effet de perspective ou est-ce que c'était vraiment le cas ?
Bonjour. C'était le cas. Une générosité s'est manifestée à partir, vous l'avez dit, du spectacle de ce Haiyang, dont personne ne voulait. 2500 personnes sur un cargo, c'est difficile à accepter. Et à partir de là, de la naissance de ce comité pour le Vietnam, des individus que vous avez cités et bien d'autres, il y a eu une mobilisation quasi générale. Certes, comme d'habitude, certains étaient hostiles, mais ça n'a pas compté. Et donc, mais vous vous rendez compte, c'est 75 la chute de Saïgon, nous sommes en 79, n'est-ce pas ? Et le bateau va naître des vagues longtemps après. Un tout petit mot, tout ce que vous avez dit est très juste, et d'ailleurs m'a beaucoup ému parce que j'ai vécu tout ça. Il y a quelque chose dont il faut absolument se rendre compte, c'est que tout ça a été improvisé, bien entendu, vous l'avez dit, mais ces gens, les boat people, entassés sur des barques, comme vous l'avez signalé, la majorité venait de sortir des camps. Car la majorité d'entre eux avaient été mis en camp dès le début, 75-76, pour des raisons complètement inconnues, souvent torturées, et les camps s'ouvraient.
Ils étaient donc très affaiblis eux-mêmes déjà.
Oui, très affaiblis. Ils n'ont pas pu partir tout de suite, c'était très compliqué, il fallait payer bien entendu, et payer qui ? Espèce de passeur, et puis il fallait trouver place sur les bateaux, et surtout ils étaient attaqués par les pirates, les femmes étaient violées, enfin c'était épouvantable. Vous avez dit 30 à 40%, je pense que c'est vrai, c'est impossible de compter les morts, puisque justement ils ont disparu au fond de la mer de Chine. Mais voilà, c'était une mobilisation qui a répondu à un grand désarroi du peuple vietnamien. Et dernier mot, le Vietnam pour nous, gens de droite ou gens de gauche, plus encore pour les gens de gauche, c'était un espoir. Tout le monde s'était battu pour la paix au Vietnam et pour l'indépendance du Vietnam.
Certains y ont cru, au propos, bien sûr.
Beaucoup y ont cru. Malheureusement, ils sont tombés, évidemment, sur une indépendance dirigée par les communistes avec les résultats que vous avez cités. Donc ce bateau, c'était l'expression de la France quand même. C'était presque toute la France qui suivait cette affaire et ce fut un bateau internationalement connu.
Alors on va revenir dans un instant sur son histoire. Ce bateau portait un nom magnifique, c'était l'île de Lumière.
Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Ce sont les boat people qui sont au cœur de l'histoire cet après-midi sur Europe 1. Franck, vous recevez Bernard Kouchner, ancien ministre des Affaires étrangères et européennes, fondateur de Médecins sans frontières et Médecins du monde.
Bernard Kouchner, que faisiez-vous, si je puis dire, là-bas, vous, en Extrême-Orient à cette époque ?
D'abord, comme tout le monde, j'avais vu la télévision, je n'étais pas en Asie du Sud-Est, j'étais à Paris et j'ai participé de la première réunion des gens que ça a un peu éveillé. Voilà, et nous avons créé immédiatement ce bateau pour le Vietnam avec des gens très valeureux. Ça a été un magnifique élan de solidarité en France. Mais ce que vous avez dit est vrai, gauche et droite réunis, ça c'est nous qui l'avons fait. Et non seulement ça, la liste même de la gauche et de la droite, mais le travail en commun. Et si ça pouvait se faire maintenant, si je peux me permettre, ce serait absolument utile. Bon, donc nous avions ça, et il a fallu inventer quelque chose. Ça n'est pas venu tout de suite, l'histoire d'un bateau. Et puis, avec le bateau, nous avons eu des refus partout. Un bateau, ça n'a pas le droit. Ne croyez pas qu'on a le droit de repêcher dans les eaux internationales. Non, il faut, j'insiste pour cela, pour devenir réfugié lorsqu'on prend la mer, il faut aller dans un pays d'accueil et se faire inscrire au bureau, s'il y en a un, du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, le HCR. Sinon, vous n'êtes pas réfugié, vous n'existez pas. Vous êtes des Vietnamiens en mer et on n'a pas le droit, bateau international, malgré l'antique droit de la mer et la lutte contre la piraterie, on n'a pas le droit de les repêcher. On doit alors vous les garder. Donc ça a été très long et l'histoire du bateau hôpital, malheureusement, heureusement en tout cas, un coup de génie, a déclenché tout parce qu'une ambulance de la mer, on refuse pas.
Eh oui, c'est ça.
Mais il a fallu des mois et des mois pour trouver ça.
Cet hôpital flottant bénéficiait d'une sorte de statut particulier, même si ça n'était pas un statut juridique.
Non, juridiquement, il ne bénéficiait de rien, mais c'était beaucoup plus dur à refuser qu'un simple bateau qui, théoriquement, aurait jeté des bouées. Il n'empêche, il a fallu des mois et des mois.
Alors, j'ai parlé des différents ports et donc pays d'accueil. Ils n'étaient pas tendres, ces pays d'accueil, il faut le souligner. Et on parlait de la Malaisie tout à l'heure. Le gouvernement malais s'est montré d'une très grande...
Il refusait complètement la venue de l'île de Lumière. Non, que nous n'avons pas inventé. C'est ça qui nous a encouragé. L'île de Lumière.
Ça tombait bien. Ouais.
Et donc, la venue du bateau devant Pulau Bidong était consentie si nous ne pêchions pas, repêchions pas, et sauvions des réfugiés en mer. On n'avait pas le droit. Après, nous l'avons fait largement, mais il fallait faire preuve de sérieux en étant le bateau hôpital d'une île où il y avait 40 000 personnes au moins et qui n'avait pas de moyens médicaux d'être pris en charge. Voilà, alors, c'était très difficile à accepter. On croyait qu'on pouvait quand même sauver les gens. Non, nous n'avions pas le droit. Et il a fallu faire cette preuve pour que, enfin, après avoir été bateau hôpital et hospitalisé, je ne sais combien de personnes, 1500, j'en sais rien, beaucoup, plus les consultations.
Mais dans quelles conditions?
Le bateau était pas mauvais, hein. C'était formidable. D'abord, c'est pas un caboteur, c'était un cargo.
Ah oui.
Le patron faisait du cabotage.
Il faisait du cabotage, mais c'était quand même un vrai cargo.
Oui, c'était presque 100 mètres. C'était un beau bateau blanc. Très beau, d'ailleurs. Mais vieux, mais très beau. Et là, ayant hospitalisé, parce qu'il y avait quand même une salle d'opération, des lits d'hospitalisation, etc., etc., nous faisions ce que nous pouvions. Il y a eu des morts, bien entendu, mais enfin, nous avons sauvé beaucoup de gens. Et lorsque les bateaux arrivaient vers Pulau Bidong, mais ça, je vous décris ça, il y a eu des mois avant, lorsqu'ils allaient vers l'île de Lumière, la police malaisienne, qui d'habitude tirait, hésitait. Alors, s'ils arrivaient sur l'île de Lumière avant qu'on les ait vus, nous les accueillions. Mais il a fallu aller aussi sur les plages et se battre avec la police malaisienne pour que certains, nous étions aidés par des déluges de pluie, que certains soient accueillis. Non, c'était très très dur pour les boat people. C'était effrayant de survivre lorsqu'on pouvait.
Je vous propose d'écouter ce que justement François Ponchelet disait sur l'antenne d'Europe 1 à cette époque.
Dans une dizaine de jours, l'île de Lumière ne sera plus là. L'hôpital en bois construit à Bidong, un hôpital de 60 lits, prendra la relève avec les médecins vietnamiens. Et alors, on risquera d'oublier les réfugiés. C'est ce que redoute le plus le docteur Bernard Kouchner, qui a été à l'origine du bateau pour le Vietnam.
Il faut toujours penser que ces réfugiés courent des dangers de mort. Et il faudrait qu'on ait présent dans notre confort occidental, à l'esprit, en permanence, l'aide qu'on peut leur apporter et ce soutien indispensable. Alors je crains en effet que ça ne retombe. Je crains que la France ne fasse qu'un effort passager pour des raisons que vous connaissez, des raisons de chômage, des raisons de travail, des raisons peut-être de racisme aussi. Et surtout, la France pense que les autres pays, en particulier les pays européens, ne font pas assez. Mais ça n'est pas une raison, parce qu'ils ne font pas assez que nous prenions de moins en moins de réfugiés.
On pourrait, vous savez, on s'amuse parfois à la radio à faire des montages. On pourrait prendre votre déclaration, en tout cas la dernière partie, et la diffuser aujourd'hui, non?
Faites-le. Mais je voudrais ajouter que la presse, mon ami François Ponchelet et bien d'autres, ont été des complices. Et c'est la première fois, au moment où nous repêchions en mer, que trois journaux ont décidé de ne faire qu'un seul article, n'étant pas des envoyés spéciaux acceptés par tous les journaux, et qu'il y a eu une signature commune. C'était formidable. Et François a été un de ceux-là. S'il n'y avait pas eu cet engouement pour ce bateau, ça n'aurait pas marché.
Alors, engouement, mais problème autour de ce bateau, puisqu'on va voir naître une deuxième association de médecins, après Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde. C'est lié à cette opération, directement?
Bon, faut écouter. Les pots sont cassés et les mépris distribués. Médecins Sans Frontières, que j'avais fondé, n'étaient pas d'accord avec... Ils pensaient que c'était une opération médiatique et qu'ils ont même appelé ça un bateau pour Saint-Germain-des-Prés. Je vous dirais bien le fond de ma pensée, mais je suis trop poli, sauf si vous assistez.
Non, je n'assiste pas.
Et donc
pas
ils
sur
se sont
point-là.
Trompés, lourdement trompés, c'est scandaleux. Eh bien, mon succès, pardon, pour ce petit mot personnel, c'est que maintenant, en mer Méditerranée, il y a un bateau de Médecins Sans Frontières. Il aura fallu 40 ans pour comprendre, mais ils l'ont compris.
Alors, ces réfugiés, que deviennent-ils? Une fois que vous avez sauvé ceux qui peuvent l'être, que vous avez essayé de porter secours à ceux qui étaient en danger, où s'en vont-ils et que deviennent-ils, ces boat people?
D'abord, l'aventure fut collective, hein, et sur le bateau, et après le bateau. Alors, nous étions confrontés au quota d'accueil des pays qui acceptaient. Les autres n'acceptaient pas. La Malaisie, la Thaïlande, enfin les pays de premier accueil évident pour des barques en mer, n'acceptaient pas. Et il fallait attendre la sélection du HCR, en tout particulier à Pulau Bidong, mais aussi dans les autres centre, si on pouvait dire, les autres bureaux du HCR, pour sélectionner les gens. D'abord, ils ne voulaient pas aller en France. Les boat people, la France, pour eux, était un pays sinon communiste, crypto-communiste. Et, bon, ils ne voulaient pas aller en France, mais ceux qui voulaient aller aux États-Unis étaient d'abord les plus grands nombres. Et ils étaient acceptés, très lentement, ils étaient acceptés. Le Canada, l'Australie et la France, certains autres. Très peu. Et puis lorsqu'ils étaient acceptés, ils quittaient le camp dégoûtant et anarchiquement traité, comme anarchiquement dirigé, oui. Et ils allaient sur les centres de transit où là, petit à petit, mais ça durait des mois, parfois des années, ils partaient vers les centres qui les recueillaient dans les quatre pays que j'ai cités, cinq oui. à la rigueur.
En France, c'est 128 500 personnes environ qui sont
arrivées. C'est beaucoup.
Oui.
Et j'ajoute aujourd'hui que c'est pas 24 000, c'est 128 000 et que vous n'avez pas eu un seul problème. Il y avait des centres d'accueil. Ensuite, ils étaient distribués, ces boat people, ces Vietnamiens, à travers la France.
On parlait déjà de crise à l'époque, mais il y avait une crise économique incontestable. Il n'y avait pas du tout la crise politico-morale que nous connaissons en ce moment. C'était un contexte différent, là, objectivement.
Oui.
Hein.
C'est-à-dire que le racisme était peut-être moins grand et le Front National existait très peu. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas accueillir, c'est une raison supplémentaire pour les accueillir maintenant.
Et ce qui est assez étonnant, c'est de voir à quel point un certain nombre d'intellectuels, si je puis dire, ont mangé leur chapeau, puisque, comme vous le disiez, ils avaient cru, eux, à la libération du Vietnam, etc. Voilà ce qu'écrivait Jean-Paul Sartre. Personnellement, j'ai pris parti pour des hommes qui n'étaient sans doute pas de ceux qui étaient mes amis au temps où le Vietnam se battait pour la liberté, mais ça n'a pas d'importance parce que ce qui compte ici, ce sont des hommes en danger de mort, et les droits de l'homme impliquent que tout homme doit entrer au secours de ceux qui risquent un danger de mort ou de grand malaise. J'abandonne complètement mes opinions politiques et je me mets dans cette affaire du point de vue humain et moral. Voilà ce que dit un homme connu par ailleurs pour son caractère relativement porté vers l'abstraction, oui, vous vous dites non, carrément sectaire.
Mais bien sûr,
dire,
il a dit était
sectaire.
Oui, tout anticommuniste est un salaud. Enfin bon, bref. Voilà. Et ça nous a beaucoup aidé parce que c'était une réflexion évidente, un geste du cœur ou un sentiment qu'il exprimait que tout le monde ressentait. Mais lui, il l'a dit alors que son histoire était très différente. Les autres, Raymond Aron, Michel Foucault, etc., ils n'étaient pas aussi sectaires que... Mais vous savez, comme vous l'avez cité, on préférait avoir tort avec Jean-Paul Sartre que Raymond... que avoir raison avec Raymond Aron.
C'est Jean Daniel qui avait dit ça. Oui,
enfin bon. Moi, j'ai eu la bonté de ne pas suivre, car c'est mon ami.
Oui, bien sûr. Mais moi, j'essaie d'être
le plus... Vous êtes historien.
Voilà, j'essaie d'être le plus impartial possible, comme vous l'aurez compris. Alors, dans un instant, nous en venons, Bernard Kouchner, à quelques souvenirs très précis de cette époque.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
C'était à la fin des années 70, la France ouvrait ses bras à quelques milliers de réfugiés. Ce sont les boat people, on en parle cet après-midi avec vous Franck. Et votre invité Bernard Kouchner, ancien ministre des Affaires étrangères et européennes, fondateur de Médecins Sans Frontières et Médecins du Monde, avec à l'époque beaucoup de réactions.
Oui, des réactions évidemment qui vont un peu dans tous les sens. Alors je vais essayer de serrer les questions, Bernard Kouchner. D'abord des questions institutionnelles. Quel a été le rôle du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies?
De refuser pendant longtemps, pendant des mois, et d'accepter finalement l'idée du bateau hôpital. Et ensuite, ils ont très bien fait leur travail. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens sur place, aussi bien à Pulau Bidong qu'en Malaisie, pour faire le travail, si j'ose dire... Horrible mot de sélection.
Alors, il y a eu une conférence qui s'est tenue à Genève les 20 et 21 juillet 1979 et qui va prendre un engagement clair. Je cite la résolution finale. Tout Vietnamien est automatiquement reconnu comme réfugié politique et a droit à la réinstallation dans un pays occidental.
Oui.
C'est une décision quand même très particulièrement forte.
Oui, si on veut, mais il fallait les trouver, ces Vietnamiens. Et comme ils n'acceptaient pas qu'on les trouve en mer, c'est ceux qui avaient passé, là encore une fois, puisque allusion à la Méditerranée, le crible de la mort, le crible de la mort en mer.
Pour qu'on ait pris une telle décision internationale, il fallait quand même que le régime de Hanoï soit entièrement connu dans toutes ses conséquences, si je puis dire.
Oui, enfin, vous savez, il y a la Convention de Genève que tout le monde a signée, enfin tout le monde, les gens dont nous avons cité jusque-là, et qui dit qu'au retour, si vous risquez quelque chose, y compris la mort et la torture, bien sûr, il faut être... Il y a un droit d'asile. Alors donc, cette décision appliquait simplement le droit d'asile. Oui, il se rendait compte, après 5 ans, que fuir de la sorte, ça signifiait que le régime était hostile à ceux qui fuyaient.
Une question un peu technique, mais qui me paraît très intéressante par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que les pays d'accueil, finaux, les grands pays occidentaux, disons, avaient des liens directs avec les pays de premier accueil? Est-ce qu'il y avait des liens bilatéraux, par exemple, de certains pays avec la Malaisie ou avec la Thaïlande?
Bien sûr, mais c'était pas suffisant. Nous avions des relations diplomatiques, une ambassade d'ailleurs. Le consul général, qui s'appelait Jean Blatt, a joué un rôle éminent dans le changement d'attitude. Pas un gros changement, mais quand même des autorités malaisiennes. Oui, il y avait des relations diplomatiques. Un ministre était venu nous voir, qui s'appelait Olivier Stirn, et qui avait été très ému par les conditions dans lesquelles ces réfugiés survivaient.
Mais Olivier Stirn était secrétaire d'État aux affaires étrangères à l'époque.
Oui.
Il y a une autre question qui revient, c'est celle des orphelins. On a recensé les orphelins pour permettre les procédures d'adoption.
Oui.
Il faut peut-être expliquer ça, pour le coup.
Que voulez-vous expliquer? Quand il y avait des possibilités d'adoption, non seulement elles étaient françaises, mais elles étaient internationales. À l'époque, c'était beaucoup plus long et plus compliqué que maintenant. Et les orphelins étaient accueillis, pas seulement par des familles françaises, mais par des familles américaines, anglaises aussi, canadiennes, etc. Oui, il y avait tout un circuit de l'adoption, si j'ose dire, mais qui était encore plus long que le circuit d'accueil.
Patrick nous dit...
Souvent, les orphelins étaient avec des familles qui les prenaient avec elles et qui les acheminaient sur les pays d'asile. Deuxième asile, on appelait ça. Premier asile, les camps. Mm-hmm. Deuxième asile, l'asile définitif.
Les boat people étaient à l'époque attaqués par des pirates impitoyables, nous dit...
Impitoyables.
C'est-à-dire que là, on vient ajouter à la misère humaine, en quelque sorte.
Bon, plus que ça. D'abord, 30 et 40%... qui mouraient au fond de l'eau, c'est beaucoup. Alors oui, mais les bateaux ne se défendaient pas en général. Dès que les bateaux se défendaient, et j'ai eu l'exemple de l'ancien chirurgien de l'hôpital Jadi, nous avions travaillé au moment de la chute de Saïgon, qui avait fait se défendre son bateau, et lorsqu'il se défendait, les Malaisiens et les Thaïlandais d'ailleurs, qui étaient armés, les tuaient les rebelles. Ou alors ils s'en allaient, et malheureusement il n'y avait pas d'unité dans ces bateaux parce que c'était des familles qui ne se connaissaient pas et qui pensaient qu'en faisant le gros dos, ils allaient échapper à tous ces dangers, l'attaque des pirates, le viol des femmes, dont on découvrait les conséquences et même l'aveu, souvent des mois et des années après.
Vous aviez évidemment des procédures spéciales pour parler à tous ces réfugiés qui déjà avaient subi l'internement souvent dans des camps vietmines, qui ensuite se retrouvaient donc...
Oui, nous avions des pédiatres, nous avions des gynéco-obstétriciens qui étaient chargés de ça, mais nous nous sommes aperçus très vite que les isoler les femmes qui avaient été violées et qui avaient ce souvenir extraordinairement douloureux, insupportable, c'était pire de les isoler que de les laisser dans leur groupe et dans leur famille. Alors oui, nous faisions ce que nous pouvions.
Une question particulièrement intéressante de Dominique. Est-ce qu'on sait ce que sont devenus ces réfugiés? Alors, bien entendu, il y a autant de parcours, autant d'histoires que de réfugiés eux-mêmes. Mais est-ce qu'il y a eu des destins singuliers ou particuliers? Elle cite notamment le cas de Monsieur Oyo N, qui s'est installé à la Martinique, où il a fait, nous dit-elle, une grande fortune.
Je le félicite. Mais vous avez qu'à aller dans le 13e arrondissement, vous verrez des gens qui doivent leur vie à l'île de Lumière et qui s'en souviennent encore, et les enfants aussi. Et puis il y a plein d'associations.
On parle beaucoup du Vietnam, faudrait dire un mot du Cambodge d'ailleurs.
Oui, le Cambodge était très différent parce que, à part quelques-uns qui en effet passaient par le Vietnam pour prendre les bateaux, Ceux-là, les Cambodgiens, il fallait les trouver sur place et le Cambodge avait subi deux assauts, évidemment, les bombardements américains et puis aussi une invasion qui avait été plus ou moins bénéfique, mais qui pour eux, les Cambodgiens, était une invasion hostile, c'était les Vietnamiens. Alors c'est compliqué la vie toujours, enfin en tout cas, pas seulement en Asie du Sud-Est. Et donc nous avions ensuite, parce que nous étions dans les camps avec non plus Médecins Sans Frontières, avec qui nous ne travaillions plus ce moment-là.
Mais c'était devenu Médecins du Monde.
Non, pas encore. C'est devenu après, oui, en 81, je crois, en 82. Je me souviens plus. Et nous travaillions dans les camps de la frontière et auprès des Cambodgiens aussi. Mais enfin, vous savez, on peut pas tout faire.
Hein. Oui. On peut dire qu'à cette époque est née une certaine, comment dire, au-delà de la solidarité dont vous parliez, avec les intellectuels, avec un certain nombre de personnalités, mais est né un certain état d'esprit que traduit la chanson de Maxime Le Forestier. Ça, c'est Monique qui nous fait part, c'est vrai, de cette chanson qui fait référence à la balade des gens nés quelque part de Georges Brassens et qui dit « Être né quelque part est toujours un hasard ». Ça a été, c'est presque le début d'une certaine façon de penser, si je puis dire. On est en 79.
Oui. Je regrette que certains, ici, maintenant, continuent à penser qu'on peut faire le tri des réfugiés. Il ne faut pas faire le tri. On ne peut pas. C'est non seulement illégal, mais moralement insupportable. Il y avait plein de chansons sur l'île de Lumière. Mm-hmm. Il y a d'ailleurs une chanson d'un groupe de Toulouse qui est devenue internationale, d'ailleurs. La chanson qui s'appelait l'île de Lumière.
Vous regrettez qu'on ne parle pas davantage de cette expérience des boat people dans le contexte actuel? Je dois révéler à nos auditeurs que quand vous êtes arrivé tout à l'heure, Bernard Kouchner, vous m'avez dit « mais il faut parler de l'actualité, pas parler de l'histoire ». Vous voyez quand même que l'histoire permet aussi parfois d'éclairer l'actualité.
Vous voyez quand même, vous me faites rigoler, c'est moi qui l'ai vécu, oui, bien sûr, il faut en parler, vous en parlez très bien. Mais on ne se rend pas compte, on ne se rend pas compte de ce qui se passe en ce moment. Alors se reporter 30 ans après, vous voyez, 30 ans après... c'est difficile, mais la leçon est celle-là, et merci de me permettre de l'évoquer. En réalité, les gens s'assimilent très bien. Les réfugiés s'assimilent très bien, surtout des gens comme les Syriens qui sont très éduqués. Et les Vietnamiens l'étaient. Et personne n'a jamais entendu parler du moindre dégât qu'ils ont commis. Au contraire, ils se sont assimilés.
Certains très bien, d'après ce que je lis.
Oui, celui qui a fait fortune, mais les autres n'ont pas toujours fait fortune. Mais je donne l'exemple. Ce chirurgien thoracique, le seul de Saïgon, le seul du Vietnam Sud, qui était le directeur de l'hôpital de Jiadin, je l'ai retrouvé. Il est venu me voir lorsque j'ai été aux États-Unis et il était à San Diego. Il s'était installé comme médecin généraliste, un type d'une qualité exceptionnelle, un chirurgien exceptionnel. Certains, nous les avons suivis. Et d'autres, les membres vietnamiens de notre comité, sont encore en rapport avec les familles. Ça s'est passé en France, après les difficultés d'accueil, après de longues semaines, parfois des mois, pour leur offrir les possibilités que notre pays, la France, pouvait évoquer. Ça s'est passé très bien. Il y a eu une solidarité entre eux exceptionnelle.
Merci beaucoup Bernard Kouchner de nous avoir parlé de l'île de Lumière et de cette affaire déjà lointaine des boat people, somme toute pas si lointaine.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, Franck, c'est une question de Cyril sur la page Facebook d'Au cœur de l'histoire. Quelle est l'origine du système décimal et de quelle manière s'est-il imposé dans le monde ?
Il semblerait, ça m'a l'air assez évident, que l'origine, elle est biologique d'une certaine manière, puisqu'on a 10 doigts, donc ça a servi à l'homme depuis très 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 longtemps à compter, donc c'est comme ça, visiblement, que ce système décimal s'est imposé. On l'attribue au peuple indo-européen, le premier système décimal primitif, en tout cas, se trouve dans la culture indo-européenne. Alors, ça va évidemment peu à peu essaimer sur la quasi-totalité des peuples connus, je dis bien la quasi-totalité, totalité, parce qu'il y a des exceptions. Notamment, les peuples amérindiens ont un système vicésimal. Alors, vicésimal, ça veut dire qu'on compte sur 20, en base 20. À mon avis, c'est parce qu'on doit compter les doigts de pied avec les autres, hein, probablement. J'imagine que c'est comme ça que ce qu'ont fait les gens à l'époque. Ce système vicésimal, évidemment, il a été complètement balayé, emporté par les Occidentaux, les Européens, quand ils sont arrivés et qu'ils ont mis fin aux civilisations amérindiennes. Il y a également, et ça, c'est très important parce que ça a laissé des traces dans notre civilisation à nous, c'est le système sexagésimal, c'est-à-dire en base 60, qui a été développé, alors là, ne me demandez pas pourquoi, qui a été développé par les Babyloniens et que vous retrouvez aujourd'hui dans la façon de compter les heures, les minutes, enfin les minutes plus exactement, les secondes puis les minutes, etc. Donc ce système-là, c'est un système babylonien qu'on retrouve également qu'on utilise dans les coordonnées géographiques avec les degrés, vous savez, par 60. Alors en France, le système décimal ne s'est pas toujours imposé. Il faudrait peut-être pas oublier qu'on a eu pendant très longtemps un système de mesure d'une complexité, vous savez, le temps des zones, des coudées, des pieds, etc., qui avait ses avantages comme système d'ailleurs, mais qui était évidemment très peu pratique et qui a été remplacé par la loi du 18 germinal en 3. C'était donc le 7 avril 1795. On a uniformiser le système de mesure basé désormais dans tous les domaines sur la base décimale. C'est une loi donc qui date de la Révolution française et qui est évidemment toujours d'actualité. Je pense qu'on aurait du mal à se remettre à compter par 12 les douzaines de douzaines et tout ça. C'est compliqué, hein.
À part pour les huîtres.
Mais on était habitués. Mais oui, mais voyez, mais c'est ça, ce sont des pratiques qui sont restées précisément de cette époque. Les huîtres, entre autres. Vous avez parfaitement raison, Anissa.